On m'a demandé de vous parler de la foi de Marie. Cette foi de Marie qui finalement est le modèle de notre foi aux uns et aux autres, et en particulier de celle du Père Lamy. Parler de la foi de Marie, c'est parler aussi finalement de notre foi, de notre manière de croire et d'accueillir le mystère de Dieu. Et en même temps, j'essaierai de faire un petit parcours à partir de différents éléments que l'on a au niveau de la Bible, en partant d'Abraham jusqu'à la résurrection, jusqu'à la Pentecôte, justement, avec cette présence de Marie au pied, la présence de Marie avec les apôtres au Cénacle, et en même temps de terminer par un point sur Notre-Dame-des-Bois, puisque nous sommes là aussi pour ce centenaire où Marie finalement nous attend les uns et les autres pour nous donner des grâces spirituelles. N'oublions jamais que, et ça c'est un peu en avance, c'est que Marie s'est toujours plaint auprès du Père Lamy que le Père Lamy lui demandait des grâces physiques et non pas des grâces spirituelles. Ils me font travailler la matière. Et donc c'est un des grands regrets de la Sainte Vierge, c'est que nous ne soyons pas capables. Notre esprit de foi ne va pas au-delà que du sensible, et elle désirait justement que nous allions au-delà des apparences, au-delà du sensible, pour accueillir le don de Dieu, et que cette foi puisse véritablement nous animer. Et donc, si nous reprenons la foi, et en repartant d'Abraham, notre père dans la foi, eh bien, si vous relisez le livre de la Genèse, et c'est l'occasion aujourd'hui de reprendre ces différents chapitres sur Abraham, on voit que si Abraham est notre père dans la foi, c'est parce que Dieu d'abord s'est révélé à lui. Dans la foi d'abord est un don, et il y a toujours à la base de ce don une initiative de la part de Dieu. Et en retour, eh bien, il y a une réponse de la personne qui reçoit, j'allais dire, cette grâce. Et ça, c'est important parce que dans ce don, ce don que Dieu nous fait, eh bien, il faut que nous sachions déjà l'accueillir. Et à travers ce don, eh bien, va se développer un certain nombre d'attitudes qui nous permettront véritablement d'approfondir notre foi. L'un des points importants, ça sera l'obéissance, l'obéissance de la foi, l'obéissance que Dieu attend de nous. Cette obéissance, c'est cette réponse, c'est notre réponse à l'amour de Dieu, cette réponse à l'irruption de Dieu dans nos vies, et c'est bien ce que Abraham va faire. Il va croire que Dieu lui a parlé et il va tout quitter, hein. Donc là, l'un des premiers éléments, ça sera justement cette écoute de la parole de Dieu qui va nous permettre de tout quitter pour suivre, pour obéir à la parole de Dieu. Et Abraham va tout quitter, il va partir, il va quitter son pays, sa parenté, et il va là où Dieu lui demande, en sachant que il ne connaît pas la destination, et là aussi, Dieu nous demande que nous sachions nous laisser conduire par lui. Donc il y a aussi dans la foi cet abandon, cette dimension de l'abandon, où nous devons nous laisser conduire par quelqu'un qui a un projet sur nous sans que nous sachions où nous allions, sans savoir ce qui va nous arriver finalement au terme de cet itinéraire. Et puis, Dieu va faire des promesses, va faire des promesses à Abraham, et un certain nombre de ces promesses vont se réaliser de manière assez rapide. Il va lui donner donc une terre, un certain nombre de choses. Et puis, par contre, il y a une promesse que Dieu va mettre du temps à réaliser, c'est de lui donner une descendance. Et dans cette promesse, on voit que il y a là aussi une dimension où le temps va jouer. Dieu nous demande cette fidélité à sa promesse, fidélité à sa parole, fidélité à ce qu'il nous a promis. Et cette fidélité, se concrétiser par une épreuve. L'épreuve, qui va véritablement venir sceller entre Dieu et Abraham, et entre Abraham et Dieu, finalement, ce rapport de réciprocité, d'attachement d'attachement entre Dieu et Abraham. Parce qu'il faut aussi penser que il faut se rappeler du péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève, c'est un péché de désobéissance. Hein, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont refusé le plan de Dieu sur eux. Et ils se sont coupés de Dieu. Et ce péché de désobéissance, ce péché de désobéissance, cette rupture avec Dieu, Dieu ne va pas rester sur ce péché d'Adam et Ève, il va vouloir venir se réconcilier l'homme. Et là, on s'aperçoit que Dieu va susciter un prophète, va se susciter un sauveur, mais pour que l'homme puisse véritablement accueillir ce sauveur, il va falloir que l'homme rentre dans une relation d'obéissance qui soit totale par rapport à Dieu. Hein, et c'est pour ça que Abraham, d'une certaine manière, il est ce père dans la foi, parce qu'il est le commencement, il est cette petite graine que Dieu jette dans le monde, où un homme va être capable, j'allais dire, d'accueillir la parole de Dieu, d'obéir, de s'abandonner à cette parole, et d'être fidèle jusqu'au bout, malgré l'épreuve que Dieu va lui envoyer. Hein, en sachant que Dieu ne veut pas la mort de l'homme, mais au contraire, il veut le salut de l'homme. On voit bien que dans l'épreuve d'Abraham, Dieu justement, avant qu'Abraham sacrifie son fils, hein, il l'empêche et il lui fait cette promesse. Puisque tu as cru en moi, je te donnerai une descendance infinie. Et c'est bien ce que nous rappelle aussi l'Épître aux Hébreux. Hein, quant au chapitre 11, versets 8 à 11, l'Épître aux Hébreux nous dit « Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. » C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir et en dépit de son âge avancé parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Et ainsi de suite. Donc, Abraham, le père des croyants, et cette obéissance, cette foi que Abraham a inaugurée dans ce monde, la Vierge Marie va en être, l'achèvement, le fruit le plus achevé de la foi que le monde aura porté. En sachant que je ne parle pas de Jésus, puisque Jésus n'a pas la foi, puisqu'il est Dieu. Donc il n'a pas besoin de la foi pour croire. Hein, il est le Fils de Dieu, donc il est l'objet lui-même de sa propre connaissance. Donc Marie est véritablement le fruit achevé de la foi, de cette préparation que Dieu s'est fait pour accueillir son Fils en ce monde. Et la Vierge Marie, même si elle a été conçue sans péché, c'est-à-dire que par une grâce, elle a été prévenue du péché originel, Marie a un itinéraire de foi tout à fait extraordinaire dans le sens où dès son plus jeune âge, elle a cru à la présence de Dieu, à l'existence de Dieu. Et on voit bien que il y a un épisode, alors c'est plutôt les évangiles apocryphes qui en parlent, c'est de Marie au temple, hein, c'est ce qu'on vous pouvez, si vous allez à Rome, à la Trinité des Monts, voir la fresque de Mater Admirabilis, où on voit la Vierge Marie au temple en train de méditer la parole de Dieu. Hein, la méditation de la parole de Dieu, Et là, il y a aussi une attitude très importante, c'est que la Vierge Marie va nous enseigner que pour nourrir notre foi, pour faire grandir notre foi, pour rentrer dans cette relation avec Dieu, parce que finalement la foi, ça sera ça, c'est faire cette rencontre avec Dieu et approfondir notre relation avec Dieu, eh bien le silence et la méditation et la contemplation de la parole de Dieu vont devenir essentiels à notre vie de foi. C'est pour ça que des hommes et des femmes se retirent dans le silence pour justement méditer, contempler, accueillir cette parole de Dieu et la faire sienne et pour véritablement en vivre. Et Marie, donc, elle-même, eh bien, va dans son cœur, dans son sein, hein, dans sa foi, concevoir, j'allais dire, le Fils de Dieu. Elle va, j'allais dire, comprendre que Dieu veut le salut des hommes et que Dieu veut que ce salut, eh bien, comment s'appelle ce salut, oui, que Dieu veut, eh bien, il faut que le cœur puisse l'accueillir, il faut que les hommes puissent l'accueillir dans leur cœur. Et ce qui nous amène à ce moment-là, à ce moment important, c'est celui de l'incarnation, de l'annonciation, où Marie, elle est, comment s'appelle, surprise par l'éruption de l'ange, oui, mais dans sa foi, elle n'est pas, j'allais dire, surprise en tant que telle, puisque finalement, lorsque Dieu lui propose d'être la mère de son fils, eh bien, elle, sa question est plus une question, j'allais dire, d'ordre personnel au niveau de sa relation avec Joseph. Et l'ange va lui dire, non, le fils que tu vas attendre viendra de l'Esprit Saint. Hein, et Marie, donc, dans son cœur, avait déjà préparé justement cette place au Sauveur. Dans son cœur, elle avait laissé, j'allais dire, la place à Dieu pour que Dieu puisse y venir y demeurer. Et la foi, finalement, c'est aussi pour nous cet espace que nous laissons à Dieu dans notre vie. La foi, c'est ce qui va, j'allais dire, va permettre à nos cœurs de s'ouvrir à la présence de Dieu, de laisser Dieu venir nous enseigner. Alors c'est un élément important de notre vie spirituelle parce que les uns et les autres, eh bien, nous sommes appelés justement à rentrer dans cette relation avec Dieu pour laisser notre cœur se dilater à la dimension que Dieu désire pour nous. Pour y laisser justement venir et intervenir aussi, eh bien, d'autres éléments qui seront développés par la suite par les autres frères, l'espérance et la charité hein, à laquelle nous sommes appelés à vivre. Et c'est vrai que ce qui va favoriser cette foi, eh bien, c'est ce silence, cette contemplation, cette prière à laquelle nous sommes appelés. Et donc Marie va pouvoir justement à l'Annonciation accueillir cette demande de Dieu et elle va le faire dans la joie. Ce qui est aussi important, c'est que Marie n'a pas, j'allais dire, n'est pas une femme, j'allais dire, craintive en ce sens où elle n'est pas, j'allais dire, quelqu'un de peureuse parce que la foi ne rend pas peureux, mais la foi rend fort et courageux. Et il y a un acte de la volonté dans la foi qui permet d'accueillir ce que Dieu demande avec courage et avec force et avec une joie profonde. Par contre, comme je disais, ben, comme dans la vie d'Abraham, parce que finalement tous les chemins de foi vont se ressembler, eh bien, il va y avoir aussi des étapes de dépouillement pour la Vierge Marie, comme pour nous. Hein, comme pour Abraham, puisque Dieu lui a fait des promesses, mais il l'a fait attendre. Et quand il a eu un fils, Abraham était, j'allais dire, au septième ciel d'avoir eu un fils. C'était pour lui l'accomplissement de toute son existence, puisqu'il allait pouvoir, j'allais dire, avoir une descendance. Eh bien, Dieu va lui dire, oui, cette descendance, elle est de toi, oui, mais quelque part, non, parce que c'est moi qui te l'ai donnée. Et je te demande de me la laisser, de me la redonner. Hein, et Dieu nous dépouille des choses souvent essentielles qui nous paraissent extrêmement importantes dans nos vies, mais il y a un acte, j'allais dire, de dépouillement à accueillir dans notre relation avec Dieu pour que Dieu soit le seul au fond de notre cœur, que Dieu soit finalement le seul qui soit présent dans notre cœur. Et vous avez dans le sermon de Saint Léon le Grand pour l'Ascension, pour ce vendredi, il y a un passage qui, ce matin, me suis dit, tiens, ça serait bien de pouvoir vous le redonner, parce qu'il correspond bien à cette attitude à laquelle nous sommes appelés à vivre, et que Marie a vécu, mais en plénitude. La grâce de Dieu devient en effet plus admirable lorsque les hommes, ayant vu disparaître ce qui leur inspirait de l'adoration, leur foi n'a pas connu le doute, leur espérance n'a pas été ébranlée, leur charité ne s'est pas refroidie. Hein, parce que dans cette épreuve de la foi que Dieu nous envoie, c'est un passage de Saint Léon le Grand dans la semaine 6 du vendredi 6 dans l'office des lectures. Cette épreuve de la foi que Dieu, quelque part, nous sommes tous appelés à vivre, n'est pas là, j'allais dire, pour nous faire du mal, mais elle est là, au contraire, pour nous faire grandir dans cette relation avec Dieu. Et la Vierge Marie, pour cela, elle-même a vécu ce dépouillement tout au long de cette vie cachée qu'elle a vécue avec son Fils. Rappelez-vous, à la présentation de Jésus au Temple, la première annonce, j'allais dire, de ce dépouillement, c'est le vieillard Siméon qui va prophétiser comme quoi un glaive viendra transpercer le cœur de la Vierge Marie, son cœur, et que le Fils qu'elle a, révélera le cœur d'un grand nombre. C'est-à-dire que véritablement, le prophète Siméon lui annonce déjà la passion de son Fils, et en même temps, lui montre que ce don de son Fils, va produira, j'allais dire, la grâce, le salut d'un grand nombre. Donc la Vierge Marie, déjà, à travers son silence et sa méditation, et il ne faut pas oublier aussi, elle a maintenant son Fils devant ses yeux, elle vit avec lui, tous les gestes que Jésus pose, tous les gestes que Jésus pose dans la vie ordinaire, elle voit comment, j'allais dire, un homme comment il faut vivre véritablement sa vie d'homme en relation avec Dieu, dans cette relation avec Dieu. Et pour cela, Marie va être la première auditrice de la parole. Elle l'a été, j'allais dire, la première auditrice de la parole quand elle était au temple et qu'elle lisait et elle contemplait et méditait les Écritures. Mais quand elle a son Fils devant les yeux, si je puis parler ainsi, dès qu'elle l'attend et qu'elle le conçoit dans son sein et qu'elle va le mettre au monde, Marie va être la première auditrice de la parole parce qu'elle va avoir l'exemple concret de son Fils qui vit, qui est le Fils de Dieu et qui vit devant elle et qui lui montre comment il faut qu'une vie, en relation avec Dieu soit vécue. Je ne sais pas si je me fais bien exprimer, mais on pourra reparler de ça. Donc c'est important parce que Marie est une maman et elle a un cœur de mère. Siméon va lui prophétiser que ce fils, c'est son fils, d'accord, mais il n'est pas fait pour elle, il est fait pour le monde, pour le salut du monde. L'annonce de la passion lui annonce que effectivement, ce fils est autre. Il n'est pas fait que pour elle. Et c'est vrai que là, on s'aperçoit aussi que la Vierge Marie, comme elle est justement toute relative à Dieu, toute imprégnée de cette présence de Dieu, ne s'attache pas, ne va pas s'attacher son fils à elle, mais elle va au contraire, elle va avoir aussi cette attitude de l'offrande et du don de son fils au monde. Alors, dans un deuxième temps, on a la vie publique de Jésus, et vous rappelez ces passages de la vie de Jésus, on voit la Vierge Marie par moments dans les évangiles. Elle est citée en particulier lorsque une femme dit bienheureuses les mamelles que tu as sucées. Et vous rappelez cette phrase, et Jésus va lui répondre, bienheureuse plutôt celle qui croit à la parole et qui la garde. Hein, et en ce sens, eh bien, Jésus ne fait pas, j'allais dire, un reproche à sa mère, mais au contraire loue, j'allais dire, plutôt son attitude, j'allais dire, d'accueil de la parole et de véritablement de la manière dont la Vierge Marie répond, vit cette parole. Et puis aussi on voit aussi Marie à Cana. Où Marie, finalement, à Cana, elle montre aussi, finalement, la confiance qu'elle a dans son fils, hein, puisqu'elle va dire au serviteur, eh bien, faites tout ce qu'il vous dira. Hein, faites-lui confiance, hein, n'ayez pas peur. Faites tout ce qu'il vous dira, et cette eau deviendra entre guillemets du vin. Hein, donc, si vous voulez, la parole de Dieu s'accomplit. Hein, faites tout ce qu'elle dira, c'est vraiment accueillir cette parole et elle produira en vous du fruit. Et c'est bien ce que les uns et les autres nous avons à faire aussi. Croire que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, accueillir sa parole pour véritablement, j'allais dire, accueillir cette conversion à laquelle nous sommes appelés. Hein, parce que cette conversion, c'est véritablement l'accueil toujours plus grand de l'amour de Dieu dans nos vies, hein, pour véritablement correspondre, j'allais dire même plus que correspondre, pour entrer totalement dans le plan de Dieu sur nous. Donc, et la Vierge Marie donc, va être aussi cette présence silencieuse auprès de Jésus tout au long de sa vie publique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Vierge Marie n'est pas, j'allais dire, envahissante. Elle est présente, mais elle ne dit pas « c'est mon fils, laissez-moi une petite place à côté de lui ». Elle est très discrète. Et je pense que de ce côté-là, ça nous amène aussi une réflexion. C'est que si nous avions rencontré la Vierge Marie du temps où elle était à Nazareth et qu'elle élevait son fils avec Joseph, eh bien, nous aurions été peut-être très déçus parce que nous aurions vu une femme toute simple qui n'avait, j'allais dire, extérieurement rien d'extraordinaire et qui, on serait peut-être même passé à côté d'elle sans la voir. Hein. Mais Marie avait cette délicatesse, j'allais dire, de ceux qui ont la foi et la charité. Elle avait cette attention à toutes les misères, à toutes les détresses, et elle savait, j'allais dire, être présente là où il le fallait, quand il le fallait. Mais son cœur était sûrement... son cœur, par contre, était un hymne de joie, hein, à Dieu en permanence. Et on n'a qu'à voir sa prière du Magnificat qui est là pour justement nous en témoigner. Hein, Marie chante les louanges de Dieu parce que elle sait que tout ce qui lui est donné l'est par grâce. Rien de ce qu'elle a, elle ne l'a reçu d'elle-même, elle ne vient d'elle-même, mais elle l'a reçu par grâce de la part de Dieu. Le mérite de Marie, c'est d'être fidèle à Dieu, de se laisser modeler, de se laisser véritablement transformer par l'amour de Dieu, hein, continuellement. Elle se laisse regarder par Dieu en permanence, elle se laisse véritablement, j'allais dire, aimer par Dieu en permanence, elle se laisse conduire par Dieu en permanence. Elle n'a aucune attache personnelle en tant que telle, elle est toute, j'allais dire, relative à Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu veut, elle le fait. Hein, ça, c'est la réponse totale, j'allais dire, de la Vierge Marie à Dieu. Et cela montre aussi son esprit d'obéissance. Hein. L'obéissance est un des traits caractéristiques de la spiritualité du Père Lamy, puisqu'il nous en parle très souvent. L'obéissance comme étant, j'allais dire, véritablement la racine même, j'allais dire, de la vie de serviteur Jésus de Marie ou de ceux qui veulent vivre de l'esprit des serviteurs de Jésus de Marie. L'obéissance pour le Père Lamy, c'est vraiment, j'allais dire, le point essentiel de notre vie spirituelle. Obéir en toute occasion et en tout moment. Avec justement, en sachant, j'allais dire, toute la présence de Dieu dans cette obéissance. Ce qui nous appelle, j'allais dire, à les uns et les autres, eh bien, à méditer sur cette obéissance pour savoir véritablement comment le Père Lamy l'envisage, et il le fait lui-même à travers l'expérience qu'il a de la Vierge Marie. Marie est un modèle d'obéissance de ce côté-là. En sachant que, rappelez-vous ce que Jésus nous dit dans les évangiles, il est venu dans le monde pour faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de son Père. Il est venu dans cet esprit d'obéissance par rapport à son Père, hein, faire la volonté du Père. Et il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Hein. La Vierge Marie, elle est entrée pleinement dans cette dimension de l'obéissance, de cette relation à Dieu, où elle laisse la place à Dieu, une place totale à Dieu. Après cette vie publique, eh bien, vous pouvez aussi reprendre les passages de la Passion. Alors, les passages de la Passion sont assez rapides, puisqu'il y a juste Saint Jean qui nous parle de la présence de la Vierge Marie au pied de la croix, lorsque Jésus va donner à Jean la Vierge Marie, va confier à Jean sa mère. Et là aussi, il y a un dépouillement, parce que si la Vierge Marie a été dépouillée d'une certaine manière de la présence de son fils terrestre, de manière terrestre, progressivement par Jésus, qui lui montre que il doit être aux affaires de son Père, que ce que Jésus loue, c'est ceux qui sont les fidèles, auditeurs de la parole, et ainsi de suite. À la croix, Jésus, se dépouille encore un peu plus de cette relation avec sa mère, puisque il donne sa mère à Jean, qui nous représente tous. Il donne sa mère à l'humanité présente, qui est représentée par Jean. D'une certaine manière, si vous voulez, il y a un dépouillement complet pour la Vierge Marie, où toute son attache, j'allais dire, humaine, terrestre, avec son fils, est totalement, j'allais dire, à la croix, est totalement accomplie. Ce qu'il faut aussi percevoir, c'est que Marie accepte totalement tous ces dépouillements. Hein, elle va pas faire un scandale auprès de son fils en lui disant non, t'as pas le droit de faire ça, non, pas du tout. Elle l'accepte totalement parce qu'elle est aussi dans toute la dimension, d'amour, cette relation d'amour avec le Père, et que en Marie, ce qui va être important, c'est justement le plan du Père, c'est-à-dire véritablement le salut des hommes. Et Marie va s'associer au salut de son fils, hein, en se laissant justement dépouiller, mais aussi en aimant les pécheurs avec qui sont en train, avec qui elle a vécu, mais aussi ces pécheurs qui vont tuer son fils, qui vont le crucifier. Faut pas oublier que pour une mère, voir mourir son fils est sûrement l'épreuve la plus grande qui puisse exister pour une mère, de voir son fils sous ses yeux, torturé et mis à mort. Marie, dans ces moments-là, ne va pas, se révolter, mais elle a justement cette attitude par laquelle elle comprend la mission de son fils. Elle comprend que son fils est venu pour sauver ce monde, et elle va s'associer à ce salut. Cela n'empêche que l'épreuve qu'elle vit, la fait souffrir au plus haut. Et vous pouvez reprendre le Stabat Mater qui, pour cela, nous montre bien les sentiments de la Vierge Marie au pied de la croix. Et dans toutes nos églises, en particulier en France, vous avez des Pietà qui nous montrent justement, lorsque Marie reçoit le corps de son fils dans ses bras au pied de la croix, elle est dans cet état, de souffrance extrême, hein, parce que là, son cœur est vraiment transpercé par un glaive de douleur. Mais en même temps, elle est dans l'amour. Elle est dans le pardon total. Il n'y a pas en Marie une once, j'allais dire, de haine il n'y a pas une once de haine dans le cœur de la Vierge Marie pour tous les pécheurs qui ont crucifié son Fils. Elle est au contraire dans cette attitude profonde de l'amour, de la miséricorde et de la compassion. Hein, on dit toujours que le sacrifice du Christ sur la croix est l'acte de plus grand amour que le monde ait jamais vécu, ce qui est tout à fait vrai, et que c'est l'acte par excellence qui nous sauve. Et Marie est associée à cet acte, hein, à la suite de son Fils. Et en ce sens, eh bien, il faut prendre conscience que la Vierge Marie, justement, nous aime d'un amour infini. Et c'est là où on s'aperçoit que sa foi, eh bien, n'a fait que s'approfondir au fur et à mesure de sa vie avec son Fils, hein, depuis sa naissance jusqu'à la Passion, eh bien, et même, je dirais, jusqu'au Samedi Saint, puisque Samedi Saint sera, entre guillemets, si on peut parler ainsi, l'apothéose de la foi de Marie. Dans le sens où Marie va être la seule personne sur cette terre qui va garder la foi, hein, puisque les apôtres ont déserté et que Marie se retrouve seule, son Fils est mort, Dieu est mort, hein, et que en apparence tout a échoué, le salut semble définitivement vaincu. Et pourtant, eh bien, la foi de Marie va garder cette foi. Et vous voyez le passage de Saint Léon le Grand quand il nous dit « La grâce de Dieu vient en effet plus admirable lorsque les hommes ayant vu disparaître ce qui leur a inspiré de l'adoration, leur foi n'a pas connu le doute. » Eh bien, Marie, sa foi n'a pas connu le doute. Même en sept ans, au moment de la Passion, elle sait que son Fils est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour le salut des hommes et qu'il est venu pour nous sauver. Hein? Et même si l'objet de sa foi lui est enlevé, retiré, qu'il est mis au tombeau, hein? Et ça, c'est, j'allais dire, sur le plan spirituel, c'est très important parce qu'on parle toujours de la nuit de la foi. Et la nuit de la foi est une nuit, et Thérèse de l'Enfant Jésus l'a vécu les dernières années de sa vie, et quelques jours avant quelques heures avant sa mort, eh bien, elle va retrouver cette dimension de la foi, une certaine dimension sensible de la foi, mais Dieu l'a dépouillée pendant un certain nombre d'années, hein, du côté sensible de la foi. Les uns et les autres, nous avons aussi à prendre conscience que c'est pas parce que je ne sens pas Dieu que Dieu n'est plus là. Dieu continue à exister. Et c'est pas parce que je ne sens plus Dieu que ma foi n'existe plus. À moi de continuer à poser les actes de la foi que j'avais décidé quand j'étais dans cette période où je croyais. Alors ça, c'est important parce que Marie, eh bien, elle nous montre un chemin qui est un véritable chemin d'abandon. Un chemin, j'allais dire, où nous sommes appelés à les uns et les autres à croire, eh bien, à croire lorsque nous ne voyons pas, lorsque nous ne sentons pas, lorsque nos sens finalement sont complètement, j'allais dire, non pas quand nos sens, eh bien, n'opèrent plus au plan de la foi. Hein, c'est-à-dire que véritablement, eh bien, on continue à croire parce que, eh bien, Dieu existe, quel que soit et bien au-delà de ce que nous pouvons les uns et les autres sentir. Hein. Pour ça que dans le monde, lorsque les gens disent qu'ils n'ont pas la foi, eh bien, c'est toujours, quelque part, ils ne comprennent pas que c'est pas parce qu'ils décident de ne plus croire que Dieu n'existe plus. Dieu continue à exister. Hein. Et c'est pas nous qui le faisons exister, c'est Dieu qui existe par lui-même. Donc voilà. Et ça, c'est important. Et là, la Vierge Marie nous montre ce chemin qui est fait un silence, et qui est un chemin de silence, qui est un chemin, j'allais dire, d'abaissement, et qui est un chemin aussi de contemplation. Contemplation qui est, j'allais dire, une contemplation qui est plutôt obscure parce que vous croyez sans voir. Et la Vierge Marie, eh bien, au pied de la croix, elle vit, j'allais dire, en plus de ça, cette épreuve où son fils se sépare, j'allais dire, du dernier lien humain qu'il peut avoir sur cette terre, et il nous la donne, et Marie, elle, va continuer à croire, malgré, j'allais dire, contre toutes les apparences. Et le samedi saint va être le jour de la Vierge Marie, hein, ce jour où la Vierge Marie est la seule dans l'Église à continuer à avoir la foi. Elle est cette petite lumière qui, en même temps, parce que dans son cœur, il n'y a que, j'allais dire, de l'amour, il n'y a que de la miséricorde, il n'y a que de la compassion pour l'homme pécheur, eh bien, Marie va, d'une certaine manière, par sa foi, va appeler la grâce de la résurrection de son fils. Elle va, d'une certaine manière, j'allais dire, solliciter le Père pour lui demander au Père du ciel, eh bien, de venir accomplir cette résurrection. Et si vous regardez la résurrection, là aussi, c'est intéressant, c'est que dans aucun des évangiles, nous voyons la Vierge Marie présente. L'acte de la résurrection est un acte silencieux, contrairement à l'acte de la Passion, mais Marie est absente de toutes les manifestations de la résurrection. Pourquoi ? Ben parce que elle n'a pas besoin de voir son fils ressuscité. Elle sait qu'il est ressuscité. Et cela lui suffit. Ça ne veut pas dire que par la suite, Marie, quand elle était avec les disciples, n'a pas vu à un moment donné son fils, mais le jour de la résurrection, eh bien, Marie n'a pas besoin d'être présente au tombeau pour voir la réalité de la résurrection. Quand son fils ressuscite, elle le sait. Et elle vit de cette résurrection. Ce qui n'empêche que, même si Marie, pouvait entrevoir, je veux dire, comme Abraham, que Dieu allait ressusciter pouvait ressusciter même les morts, que Dieu allait ressusciter son fils, ça n'empêche que Marie a vécu toute l'angoisse, hein, de la mort, toute la souffrance de la mise à mort de son fils. Il ne faut pas oublier que c'est pas, ça n'a pas été, comme elle a dit au Père Lamy, quand elle pense à la Passion, le Père Lamy dit, eh bien, la Vierge Marie a les bras qui se crispent et on voit qu'elle vit encore cette douleur et cette douleur de manière très, très, très profonde. Donc, c'est pas, j'allais dire, Marie a véritablement vécu cette épreuve de la Passion, mais elle vit aussi cette joie de la résurrection de manière infinie, et son cœur est comblé de grâce au-delà de toute espérance. Et on s'aperçoit que cette foi de Marie, eh bien, elle ne va pas, je veux dire, d'une certaine manière, la garder pour elle, mais elle va aider les apôtres, puisque à la Pentecôte, et on est justement dans ce temps de la Pentecôte, où effectivement, eh bien, Marie est présente avec les disciples, et elle appelle par sa prière, avec unie à celle des apôtres, elle appelle l'Esprit Saint. Elle appelle l'Esprit Saint parce que si vous avez écouté l'évangile de l'Ascension que nous avons eu hier, eh bien, on s'aperçoit que lorsque le Christ leur apparaît avant de disparaître définitivement, les apôtres sont toujours dans le doute. Un certain nombre sont toujours dans le doute. Et que ce doute, eh bien, montre qu'ils ne sont pas encore totalement affermis dans la foi. Qu'il leur faut encore, j'allais dire, un petit coup de pouce pour pouvoir véritablement qu'il n'y ait plus de doute et qu'ils soient capables, j'allais dire, d'annoncer cette bonne nouvelle et de partir dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc là, eh bien, la Vierge Marie, elle n'a aucun doute. Hein, comme sa foi n'a jamais flanché tout au long de son existence, eh bien, elle va véritablement soutenir les apôtres dans la foi. C'est pour ça qu'elle est présente au cœur de l'Église et qu'elle soutient la foi de l'Église et qu'elle y est présente. Et c'est pour ça que aussi dans les Actes apôtres, on signale aussi cette présence de la Vierge Marie qui accompagne de sa prière. Et on voit aussi toute la dimension de la prière. Et là, vous pouvez vous référer au Père Lamy. Quand la Sainte Vierge lui apparaît et que sur son cœur il y a le chapelet qui se dessine avec les deux petites flammes, l'une verte et l'une rouge. Le chapelet symbolise la foi, montrant que l'importance de la prière en union avec la Vierge Marie pour nous soutenir notre foi, justement, pour approfondir notre foi, parce que les uns et les autres, nous avons besoin de cela. Et dans cette période de l'Esprit-Saint, où nous attendons l'Esprit-Saint de cette Pentecôte, c'est aussi de demander à la Vierge Marie de venir nous renouveler dans le don de la foi. Parce que c'est la foi qui, finalement, va disposer nos cœurs à accueillir de manière plus plénière la grâce de Dieu et de vivre plus profondément de cette foi et de cette charité. Ce sont des choses, ce sont les éléments importants de notre vie chrétienne. Et finalement, si on faisait une petite synthèse de cette foi, quand on voit avec Notre-Dame des Bois, et finalement la Vierge Marie le demande souvent dans tous les lieux où elle est apparue, mais de manière particulière, ce que la Vierge Marie demande à Notre-Dame des Bois, c'est que dans ce lieu, il y règne le silence, la pureté et le réconfort des âmes. Trois éléments qui sont essentiels et qui nous montrent, justement cette présence maternelle de la Vierge Marie. Elle nous demande le silence, pourquoi ? Pour que nous puissions rentrer dans une méditation, dans la contemplation de la parole. Sans contemplation de la parole, nous ne pouvons pas progresser aussi dans la foi. Ce silence est essentiel. Nous devons savoir faire silence. Ne pas faire silence, c'est d'une certaine manière passer à côté de cette fécondité de la présence de Dieu dans nos vies. Penser que la Vierge Marie, par ce silence, a été capable d'accueillir le Fils de Dieu dans son sein. Le silence porte un fruit. Ce fruit, c'est cette incarnation du Verbe. C'est finalement pour nous, ça va être d'une certaine manière, comme dirait Élisabeth de la Trinité, une incarnation de surcroît, c'est-à-dire véritablement permettre au Christ de venir vivre en nous de manière bien réelle. Le silence vraiment est essentiel. D'où l'importance, quand on est en récollection ou dans d'autres moments, même dans notre vie de tous les jours, même si notre vie est trépidante, c'est de prendre ces temps de silence, ce temps d'oraison, si vous voulez, l'oraison ou le silence ou de méditation, parce qu'ils sont essentiels. Parce que véritablement, à ce moment-là, c'est là où Dieu peut véritablement se révéler à nous et nous montrer ce qu'il attend de nous, mais aussi nous révéler nous-mêmes. Nous aider à nous comprendre nous-mêmes et à faire un marché vers Dieu pour véritablement devenir un peu plus, des hommes et des femmes chrétiens. Le réconfort des âmes, parce que Marie voit bien que nous sommes des personnes blessées et que nous sommes des personnes qui sommes des pécheurs et que bien souvent notre foi vacille plutôt que d'être forte, et il ne faut pas se prendre pour des surhommes parce que finalement on est bien faible dans notre foi et que les épreuves de la vie sont autant de coups de boutoir qui viennent ébranler notre foi et dont nous avons besoin de lieux dans lesquels le ciel puisse venir nous aider nous réconforter dans notre vie, nous permettre retrouver le sens de nos existences, de pouvoir nous relancer dans cette vie dans laquelle nous vivons. Donc le réconfort des âmes, parce que Marie, elle a un cœur de mère, elle veut venir nous consoler, nous relever. Mais n'oublions jamais que chez la Vierge Marie, comme elle le disait au Père Lamy, son réconfort, c'est pas de la mièvrerie, c'est pas une douceur douceâtre. C'est, euh, elle veut nous remettre debout, mais en même temps, comme disait le père Lamy, elle est bonne, mais elle ne laisse rien passer. Hein, elle est bonne parce qu'elle est, elle est bonne, elle est douce, elle est capable, j'allais dire, elle veut nous donner de la, comment s'appelle, de l'allant, mais elle ne nous laissera rien passer sur le plan du péché. Hein, et nous avons aussi à prendre conscience que nous avons à nous convertir, à corriger ce qui dans nos vies eh bien, est un obstacle à la grâce de Dieu. Hein. Donc de ce côté-là, elle sera douce, elle sera bonne, elle sera exigeante, mais elle ne nous laissera rien passer, hein, comme elle le disait au père Lamy. Il disait ça parce que le père Lamy était, quand il était enfant, il était un peu paresseux, donc elle ne l'aidait pas systématiquement, hein, elle ne couvrait pas toutes ses bêtises, d'une certaine manière. Mais c'est pour montrer que le ciel est bon, mais nous avons les uns et les autres à poser des actes par lesquels notre volonté désire profondément se convertir. Le ciel, à ce moment-là, eh bien, donne le petit coup de pouce qu'il faut, entre guillemets, si je peux parler comme ça, pour nous aider à faire le progrès que Dieu attend de nous. Mais nous avons à faire ce petit pas. Vous savez, c'est la vision que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a devant l'escalier avec Jésus en haut. Elle se voit toute petite fille avec un grand escalier, elle n'arrive pas à monter les marches parce que les marches sont trop grandes pour elle. Et donc, au bout d'un certain nombre de temps et d'efforts qu'elle fait pour monter, pour rejoindre Jésus, eh ben, c'est Jésus qui descend et qui vient la prendre dans les bras. Hein. Donc, quelque part, si vous voulez, c'est aussi cela, hein, ce que nous sommes appelés à vivre. Et puis la pureté, parce que dans la pureté, eh bien, effectivement, on retrouve, j'allais dire, cette innocence et cette... une certaine innocence par rapport au monde dans lequel nous sommes, puisque la pureté s'oppose, j'allais dire, à la saleté, au péché, et que la pureté nous permet justement d'avoir un sentiment de renouvellement dans notre cœur. Alors, c'est tout cela que nous avons à vivre avec la Vierge Marie, lui demander eh bien, qu'elle nous aide dans notre foi à progresser, à vivre, j'allais dire, de sa présence, et puis que nous sachions les uns et les autres, eh bien, la prier, mais en même temps lui faire confiance. Parce que dans cette foi de Marie, eh bien, on voit que l'obéissance, la confiance, l'abandon, cette compassion aussi, cette fidélité, cet amour de Dieu, tous ces éléments sont présents dans cette foi de Marie. Eh bien, qu'elle puisse nous aider à vivre tout cela pour que nous puissions répondre pleinement à cette vocation d'enfant de Dieu et que nous puissions trouver à notre âme des bois, justement, que nous fassions ces demandes les uns pour les autres. Hein, on ne va pas prier simplement pour soi, mais on va aussi demander pour les autres pour que nous puissions être justement dans cette communion d'amour avec la Vierge Marie qui n'a rien demandé pour elle, mais qui a tout demandé pour nous.